entre ce mouvement et le cancer oriental. Je réfute totalement cette
histoire. Moi, c'est une combattie au Kasanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, les présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à la fréquence de la paix. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Évariste Boshab, a suspendu la semaine dernière à Kinshasa les sessions ordinaires des assemblées provinciales de nouvelles provinces. Son message aux assemblées provinciales n'évoque aucune raison justifiant cette mesure. Certains acteurs politiques dénoncent cette mesure qui traduit, selon eux, la mainmise du pouvoir central sur le fonctionnement des assemblées provinciales. Alors, que pensez-vous ? En direct, vous pouvez participer à ces débats au 081-890-6315. Vous pouvez aussi nous faire parvenir vos commentaires sur notre page Facebook ou bien sur notre courriel pa@radiocapi.net. Alain Goy est à la technique, Julie Pesabongunda est au standard, Pierrot et la BG est à la réalisation de ce programme, coordonné et présenté par J.R. Mungembo sous la supervision de Léonard Moulaba. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081-890-6315 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Mungembo.
Merci à vous tous qui, avaient fait des commentaires sur notre page Facebook, Joe Tchabadala. Ces pratiques, sont contraires à l'exercice d'un pouvoir démocratique. Cette façon d'agir, sans pour autant justifier ses actes à ce niveau dans la gestion de l'État, est pure et simplement de la dictature. Blaise Mungala dit ceci, le professeur Évariste Boshab a pris une très bonne décision, mais ce qui fait mal, c'est qu'il prend des décisions en sociologie, en sociologue ou historien. La Constitution est claire à ce point. Il faut lire attentivement la Constitution. Et tout a été prévu. Sylvain Louma, depuis Kinshasa, je recommande à tous les professeurs de droit constitutionnel d'être légalistes et de respecter cette dose d'honnêteté scientifique. Mesdames et messieurs, vous êtes nombreux à vouloir participer à ces débats. Nous allons prendre Maurice, qui est à Kinshasa. Maurice, vous êtes avec nous. Bonjour.
Oui. Bonjour, je salue les auditeurs qui nous suivent à l'instant.
Vous avez la parole. Que pensez-vous par rapport à cette thématique ?
En fait, la mesure, comme dit dans les différents commentaires qui ont été postés par les auditeurs de la Radio Capi, et notamment de l'émission Parole aux auditeurs, c'est une mesure en fait anticonstitutionnelle, illégale. Et cette mesure ne peut être en fait admise dans un État peut-être qualifié de voyou, un État en fait fasciste, peut-être comme le nôtre, parce qu'on ne peut pas admettre un ministre nommé d'un gouvernement qui est l'émanation d'une assemblée provinciale ou nationale puisse prendre une mesure de suspendre de manière illégale et inadmissible les sessions qui tournent le plénière d'une assemblée délirante. Alors ça ne peut se passer que, comme je disais tantôt, dans un État fasciste et voyou. Alors, si vous prenez, vous parcourez même la loi, prenons même la Constitution. Avant la modification, la dernière modification de la Constitution opérée en janvier 2011, vous allez constater qu'il n'y avait même pas une seule disposition dans cette Constitution qui prévoyait même la dissolution, même la suspension d'une assemblée par même le président de la République, qui est la première institution du pays. À la place, je crois qu'il y avait un concept qui a été inventé pour parler d'une dissolution des pleins droits. Et il s'agissait d'une dissolution qui ne serait pas décidée par une autorité, mais qui serait constatée lorsque certains événements venaient à se produire. Et dans ces événements, il y a un droit du procès qui a été défini à l'article 39 de la loi. Et on parlait de crimes institutionnels persistants. Et je parlais encore de primaux de fait pour une assemblée de ne pas dégager une majorité pendant 6 mois successifs. Et la deuxième hypothèse, c'est le fait pour une assemblée provinciale de ne pas se réunir pendant une session, faute de quorum. Et je crois que la troisième, c'était peut-être fonder l'Assemblée provinciale de renverser le gouvernement provincial à ses reprises au cours de deux sessions d'une même année. Et donc, l'une de ces trois hypothèses s'est réalisée, la dissolution des trois voix de l'Assemblée provinciale était constatée par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat qui en faisait rapport au président de la République. Je crois que c'était clair, mais avec la dernière modification, comme je disais tantôt, de la Constitution en 2011, janvier 2011, il a été en fait reconnu en fait au président de la République de procéder à la dissolution de l'Assemblée provinciale dans les cas en fait du procès que je venais de évoquer. Mmh. Alors, nous ne savons pas de quels droits, de quelles compétences un enfant pourrait pouvoir se décider un petit matin, il se réveille, je ne sais pas, sous l'ivresse de l'hiver ou de l'alcool, et de sortir avec sa mère. Donc c'est vraiment une violation inadmissible. Même on peut permettre certaines violations.
Oui, Maurice, quand vous parlez de violation, est-ce que vous faites allusion à l'arrêt de la Cour constitutionnelle aujourd'hui qui parle de la situation exceptionnelle? Je crois que il y a des décisions qui sont prises dans ce sens-là.
J'allais en venir, les raisons que vous avez en fait évoquées. Je pense que d'abord, nous devons condamner, d'abord, parce que toutes ces vérités, si évidemment ils sont aujourd'hui opérées, c'est par rapport en fait à cet arrêt qui a constaté cette inconstitutionnalité dans les actes qui sont posés par les acteurs politiques et qui le justifieront plus tard par cet arrêt qui dispose que ce gouvernement, plutôt qui envoie au gouvernement de prendre des dispositions.
Exceptionnelles.
Les dispositions transitoires et exceptionnelles. Mm-hmm. Alors, sans circonscrire, et pourtant, il devrait circonscrire ces dispositions, même s'il n'a pas circonscrit ces dispositions, mais en tant que légaliste et constitutionnaliste de sa propre, mais c'est un pour ça, devrait comprendre que tout acte qui est imposé par nous devrait se conformer à la Constitution. Dès lors qu'il a pris une mesure qui fait, qui en fait énerve la Constitution, c'est-à-dire que cette mesure doit être attaquée d'une constitutionnalité, des fois la même Constitution de même,
voilà.
La même Cour constitutionnelle qui a envoie au gouvernement de prendre des mesures transitoires et exceptionnelles.
Alors, Maurice,
maintenant, c'est de savoir.
Maurice.
La Cour, plutôt, est-ce que les députés provinciaux, qui sont aussi silencieux face en fait, à cette mesure fasciste, ne peuvent pas prendre l'initiative, à ce moment ici, d'attaquer quand même cette mesure-là devant la Cour constitutionnelle. Parce qu'on ne peut pas mettre dans un pays qui se dit état des droits, dans un pays où les gens prônent la démocratie,
voilà,
la démocratie, c'est le respect de la Constitution, on risque de payer un petit matin un ministre.
Je crois que on retient pour vous donc il s'agit là de deux organes qui en fait jouissent de l'autonomie dans leur fonctionnement. C'est vrai, malgré qu'on se retrouve là dans une situation transitoire et exceptionnelle. Pour vous, donc vous estimez que il s'agit là, pire et simplement, donc d'une violation de la Constitution. Merci beaucoup, Maurice, d'avoir appelé de Kinshasa. Maître Sombil, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Gire. Bonjour à tous les millions d'auditeurs de la radio Capi.
Vous avez la parole.
Alors, en tout cas, Monsieur Gire, l'heure est grave. Nous ne savons pas si nous vivons dans un État, dans une République de manière. Tous dans une République de manière, n'importe qui pose n'importe quel acte. Sans respecter les lois, sans respecter la Constitution. Moi, j'estime que c'est une violation flagrante de la Constitution. Quand même, on dit que nous vivons un État là d'exception, tout ça. Monsieur J.L. C'est déplorable pour une démocratie comme celle-ci. Moi, je vois que la démocratie est en train d'être empoignardée. Et c'est que monsieur Pras, c'est monsieur Boris Bouchard, le ministre, c'est un professeur de droit constitutionnel. Moi, je ne comprends pas comment est-ce que lui, en tant que constitutionnaliste, il peut
oui.
Passer
oui,
ses connaissances pour arriver à ce niveau. J'y arrive, monsieur J.L.
Oui, Maurice, mon souci,
je ne peux même pas parler.
Oui, maître Maurice, pardon, maître Sauville, je voudrais bien que le débat soit impersonnel. Vous savez, parce que c'est une décision du gouvernement. Voilà, donc Donc il ne faudrait pas que nous personnalisons les débats comme si c'était une affaire simplement du ministre de l'Intérieur. C'est tout un processus de la décentralisation. Nous sommes arrivés au niveau des découpages territoriaux et aujourd'hui, après l'arrêt de la Cour, je crois que nous sommes dans une situation transitoire et exceptionnelle. Donc nous n'avons plus là évoquer encore quelques dispositions de la Constitution.
Oui, monsieur, je vous ai bien compris, je vous ai bien suivi avec une attention soutenue. Mais la question que je me pose, pour combien de temps ces assemblées sont suspendues? Il a fallu qu'on puisse nous dire. Et que vont devenir ces députés provinciaux, puisqu'ils sont suspendus? Ils continuent à assumer leur fonction du temps qu'ils ont été élus par la base, par la population? C'est la question que je me pose. Moi, j'estime que ce n'est même pas une suspension. J'estime que c'est une dissolution tacite. Puisque on nous a parlé des commissaires des commissaires spéciaux. Moi je vois que avec la retenue, avec la continuité de l'administration, une fois que les comités et les commissaires spéciaux sont nommés, quelle sera la fonction, quel sera le rôle de ces assemblées provinciales là? Moi je vois que le gouvernement est en train de prendre ces mesures pour dissoudre tacitement ces assemblées provinciales, puisque les assemblées provinciales de 21 provinces n'auront pas des rôles qui leur été dévolus par la Constitution, et ces commissaires spéciaux sont dépendants directement de celui-là qui les a nommés, dépendront directement du gouvernement, dépendront directement de la présidence, et les injonctions viendront d'en haut. Alors c'est le gouvernement qui va chercher à enjoindre à ces commissaires sociaux ce qu'il faut faire dans l'état exceptionnel. Moi je vois que M. Gilles, dans notre démocratie est en péril, notre démocratie est empoignardée. Moi je vois que suspendre, je ne peux pas parler de la Constitution, mais comment que je ne peux pas parler de la Constitution si longtemps que quand même la Cour constitutionnelle avait rendu cet arrêt. Nous voyons que la Constitution, c'est indiscutable, oui, mais nous voyons que la Cour constitutionnelle a outrepassé ses prérogatives. Puisque aujourd'hui, les gouvernements provinciaux doivent fonctionner. Et maintenant, si vous suspendez déjà ces assemblées provinciales, aujourd'hui, il y a encore la continuité de l'administration au sein, par exemple, de l'ex-province du Haut-Katanga, puisque c'est le vice-gouverneur Gilbert Yachibal qui est en train d'assumer les affaires courantes. Mais maintenant, vous suspendez les sessions ordinaires de ces assemblées provinciales. Quel est cet organe qui va contrôler le gouverneur? Vous voyez que, M. J.R., il y a des fois, nous devons être quand même conscients de ce que nous faisons. Nous devons placer l'intérêt de l'État congolais au centre de nos agissements, au centre de nos actes. Aujourd'hui, il y a une cacophonie qui se peut manifester dans même le fonctionnement même de l'administration, dans le fonctionnement du gouvernement. Mais avec encore cette décision, avec cette autre circulaire, où est-ce que nous allons arriver? Où est-ce que nous partons? À titre législatif, par rapport à la province orientale, on a même arrêté quelques députés provinciaux sur ordre du gouverneur. Vous voyez où est-ce que nous allons? C'est juste une cacophonie. Moi, j'estime que cet arrêt de la Cour constitutionnelle est venu encore enfoncer le pays dans une cacophonie profonde, dans un désordre profond, quand même c'est la Cour constitutionnelle qui a rendu cet arrêt. Et j'estime que, M. Gilles, nous devons être conscients. Nous devons voir où est-ce que nous allons avec ce pays. Comment est-ce que nous pouvons pérenniser cette jeune démocratie? Comment est-ce que nous pouvons consolider cette jeune démocratie? Moi, c'est un cri d'alarme que j'envoie auprès des décideurs de ce pays, des tenants du pouvoir, qui puissent un peu cogiter afin d'entrevoir un avenir radieux pour notre pays, qui est un patrimoine. Là où tous les Congolais doivent se retrouver, là où tout le monde a le droit de mettre ses acquis.
Maître Sauville, il y a un trésor d'Ikonda qui nous a écrit, qui a dit ceci: nous devons par moment éviter de juger négativement des hautes personnalités du pays. La Constitution dispose que nul n'est censé ignorer la loi. Il n'est pas du devoir du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de motiver sa décision au motif que ceux qui s'apprêtaient à siéger en session ordinaire dans les assemblées provinciales des nouvelles provinces voulaient agir illégalement. La loi de programmation définit un ordre du jour pour les sessions extraordinaires sous la conduite des bureaux provisoire des dites assemblées. Cet ordre du jour devra s'épuiser à l'installation des bureaux définitifs qui, seuls, ont plein pouvoir pour ouvrir les sessions ordinaires. Passer outre cette obligation du législateur, n'importe quel citoyen congolais peut en faire obstacle. Ainsi, le professeur Évariste Bouchard n'a fait qu'empêcher la violation de la loi des programmations. Alors, sa mesure n'est donc pas antidémocratique, ni de nature à vouloir créer la mainmise sur les assemblées. Comment réagissez-vous, Maître Sombi?
Moi, j'estime que les mobiles avancés par, mon confrère, Maître Lucosa, soit par le professeur Évariste Bouchard, n'est pas tout à fait fondé. S'il était ainsi, il devait peut-être reprocher, blâmer ces assemblées et leur demander à revenir à l'ordre, à revenir à l'ordre et à respecter cette loi de programmation. Ce n'est pas pour autant que l'ordre du jour devait être contraire à ce qui est prévu dans la loi de programmation qu'il faut suspendre les sessions ordinaires de ces assemblées. Là, je estime que c'est infondé. Ce n'est pas la bonne manière de punir. La bonne manière serait de demander seulement à ces gens-là de se conformer à cette loi de programmation et de ne pas taper à côté, de ne pas aller au-delà de ce qui est dit du contenu de la loi de programmation. Moi, pour moi, j'estime que c'est antidémocratique. Dans les ajustements du pouvoir, je vois que le pouvoir est en train de s'imposer, de faire de n'importe quoi pour les intérêts de ceux-là qui se retrouvent aujourd'hui au gouvernement.
Merci
Nous devons sauver ce pays. Ce pays appartient à tout le monde.
Maître Sauvier, merci beaucoup. 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Votre connexion Internet est trop lente? Radio Okapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes mail. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes mail, c'est gratuit. Radio Okapi.net, à votre service. Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Voilà, merci de votre fidélité à Radio Capi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Nous avons en ligne Albert Paca, conseiller juridique au ministère de l'Intérieur. Monsieur Albert Paca, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Voilà,
chers amis, auditeurs de Radio Capi.
Voilà, d'entrée du jeu, vous venez de suivre la réaction des auditeurs, Maurice et Maître Sauville, depuis Lubumbashi. Alors, quelles sont les motivations de cette décision du ministère de l'Intérieur?
Voilà, je remercie d'abord tous les membres de l'auditeur et c'est Radio Capi de vouloir nous mettre ensemble de manière d'une autre pour réfléchir sur l'orientation sociale de notre pays. Je voulais seulement rappeler d'abord d'une manière claire et sans ambages, il n'y a jamais eu une décision de suspendre la tenue des assemblées provinciales. Je pense que, malheureusement pour nous, je dois le déplorer, la communication n'a peut-être pas été au niveau tel que beaucoup de nos compatriotes se sont malheureusement laissés aller dans les spéculations à gauche et à droite. Mais il n'y a pas que nos compatriotes, vous savez également que malheureusement, certains de nos partenaires se sont d'ailleurs illustrés dans les jours passés, dans la médisance, ont appuyé à plusieurs reprises ces démarches-là. Voilà pourquoi, à ce niveau, je porte le démenti formel, il n'y a jamais eu une décision de suspension des assemblées provinciales. Ce qu'il y a eu, il y a eu un message venu strictement du ministère de l'Intérieur. Il était demandé à tous les présidents bureaux provisoires qui s'apprêtaient à consulter la tenue des sessions ordinaires de pouvoir sursoir cette convocation simplement parce qu'il y avait effectivement des préalables qui devaient être par le gouvernement mis à disposition de ces assemblées provinciales. Je parle de quoi? Je parle notamment, ça, ce n'est qu'un aspect, des frais de fonctionnement. Comme vous le savez, ces nouvelles provinces sont jeunes. Et ils partent. obligés au préalable, parce qu'ils n'existaient pas tout simplement. Maintenant qu'ils existent, et évidemment notre grand bonheur, il va falloir leur doter des moyens nécessaires pour tenir cette assemblée, cette session ordinaire. Comme on l'a fait pour les sessions extraordinaires, il y a eu des moyens qui ont été donnés par le gouvernement central, en attendant évidemment que ces nouvelles provinces aient leur autonomie de gestion, il y a des moyens. Mais enfin, ce n'est pas compliqué. Il faut avoir des frais de fonctionnement pour tenir une réunion. Et ces frais de fonctionnement doivent venir du pouvoir du gouvernement central. Et ces frais de fonctionnement ont effectivement été donnés. Alors, comment le gouvernement va-t-il anéantir les assemblées provinciales et prendre de l'argent et faire que déjà c'est aujourd'hui c'est disponible? Il y a une lettre sous la main, on ne peut pas gouverner dans la rue malheureusement, comme certains le souhaitent. On ne peut pas gouverner dans la rue. Il y a une lettre, par exemple, envoyée tout récemment aux nouvelles provinces pour expliciter comment cet argent devait être utilisé. Donc, cette enveloppe qui est destinée aux nouvelles provinces, et vous savez que certains gouverneurs actuels ont tenté de mettre la main basse sur cette enveloppe-là, mais on leur a dit que cette enveloppe est arrivée, ces enveloppes sont arrivées au nom des nouvelles provinces, de sorte que les anciennes provinces, ou les gestionnaires des anciennes provinces, ne pouvaient pas avoir accès à ces comptes. On dit que les institutions qui sont déjà installées, notamment l'Assemblée provinciale, eh bien, ces assemblées peuvent aller toucher leurs frais de fonctionnement. On parle pas de la gestion, comme certains l'ont dit. Ici, c'est des fonds pour les fonctionnements. Ces institutions peuvent déjà les toucher. Les institutions qui ne sont pas encore en place, à savoir les exécutifs, eh bien, malgré que cet argent est déjà à leur disposition au niveau de d'antenne de la Banque centrale, ils ne peuvent pas encore y aller, parce qu'on n'a pas encore conseil exécutif. Lorsque les églises seront là, ils iront évidemment toucher ces enveloppes. Ce n'est qu'un exemple dans beaucoup de ces modalités préalables pour permettre à ces assemblées ou à ces institutions professionnelles de pouvoir fonctionner. Mais franchement, je suis très étonné, et excusez-moi, il y a quand même un peu de l'amertume, de constater qu'on peut aller en spéculation et soulever autant de poussière, on parle de violation de la Constitution. Mais on n'a jamais été. Moi, personnellement, je n'ai jamais imaginé qu'on pouvait aller en spéculation à ce point-là. Et je crois qu'effectivement, peut-être qu'il y a eu simplement un déficit de communication. Ça, je le concède.
Voilà.
Parce que, on est loin des enjeux tels qu'ils sont présentés par nos fidèles compatriotes.
Voilà. Albert Paquin, en tant que conseiller, même alors qu'il s'agissait là d'une sur séance pure et simple, comme vous l'avez dit, donc, et non d'une suspension, est-ce que c'est constitutionnel, cette décision, dans la mesure où, en fait, ces assemblées constituent aujourd'hui elles organes, des organes délibérants, qui jouissent d'ailleurs de cette autonomie de fonctionnement par les règlements d'ordre intérieur et aussi, comme les prédécesseurs l'ont dit également, par la loi des programmations?
Non, il ne faut pas présenter chaque fois les choses en ces termes-là. C'est une démarche qui visait à harmoniser simplement la tenue de cette session ordinaire.
Mmh.
Harmoniser, parce qu'il y a besoin d'harmoniser. Harmoniser avec les mesures d'exécution, cette loi de programmation, harmoniser par rapport aux mesures de finances, harmoniser par rapport aux mesures qualitatives, harmoniser par rapport à beaucoup de dispositifs. Peut-être que les gens ne sont pas au courant, c'est vrai, c'est ça la difficulté quand quelque part. On est un peu en respect par rapport à la gestion des affaires, mais la réalité, simplement, moi, dit, on ne peut pas dire que dans cette démarche d'harmonisation du calendrier, il faille nécessairement y voir une volonté de tout bien processus. Mais enfin, soyons quand même un peu, ce qui part, reconnaissant envers des gens, de nos compatriotes, à commencer par le chef de l'État, qui a levé fondamentalement l'option de décentraliser le pays, d'aller vers la décentralisation. Au nom de quoi aujourd'hui serait-il un revirement à 180 degrés pour pouvoir topier le système que lui-même a sûrement installé? Et je tiens à rappeler qu'au moment où il s'est lancé dans cette voie-là de la décentralisation, beaucoup aussi ont vu quelques gestes, mais aujourd'hui, nous sommes satisfaits. Et d'ailleurs, il faut le répéter. Et la plupart de ces mesures de décentralisation sont liés à ces régimes que nous accusons de tous les maux. Alors aujourd'hui qu'on veut parfaire et faire ces processus-là, parachever ces processus avec des mesures les plus adéquates possibles, mais maintenant, d'où viennent ces soupçons? Je comprends qu'on soit dans un contexte où on veut voir à tout moment, pissement, ça et ça, mais je crois que notre devoir en tant que compatriotes, c'est vous, en tant que citoyen de ce pays et en même temps comme des médias, vous avez une influence sur l'opinion. Je crois qu'il faut débarrasser de toutes ces soupçons inutiles, de toutes ces suspicions inutiles, mais je ne pense pas que ça peut favoriser le résultat. Nous sommes citoyens, cette démarche peut se faire, on ne va pas nécessairement s'interroger si aller aux toilettes c'est positionnel ou pas, non. Et nous enfermons pendant ces 4 ans.
Voilà, on a compris. Tout à fait. Alors, monsieur Albert Paca.
L'œuvre vise simplement à harmoniser et à faire
tout à fait.
Avec un minimum. On comprend.
Voilà.
Il y a tous été difficile dans ce processus. Ceux qui ont accepté de faire ce processus, ils sont mouillés. Et bien voilà, nous devons les accompagner. Nous avons aussi devoir de les accompagner dans ce processus. Ça demande un minimum de confiance.
Voilà, un minimum de confiance. 2 semaines après cette décision, voilà, donc, où en est-on avec cette harmonisation? Quand est-ce que les assemblées peuvent reprendre leurs activités?
Je crois que tous ceux qui ont des soupçons vont avoir tort dans quelques jours.
La
démocratie est résolument installée dans ces pays. Et que, ben voilà, leurs soupçons pourront tomber. Je serai reconnaissant s'ils ont l'honnêteté de revenir à votre enseigne, venir se rétracter, mais je pense que ce n'est pas nécessaire.
L'annoncer.
C'est d'aller en avant. C'est que dans les semaines qui suivent, vous verrez vous-même que la machine reprendra, l'harmonisation a été faite en concertation avec le président du bureau. Nous ne devons pas venir présenter les spécifications dans la rue. C'est pas nécessaire, par contre, qu'on gouverne. Faisons confiance, je crois que c'est ça.
Alors, comment vous expliquez ça, le gouvernement et l'Assemblée provinciale, deux organes distincts, en tout cas dans leur fonctionnement, qui jouissent chacun d'une certaine autonomie dans le fonctionnement. Est-ce que, bon, je sais pas, comment vous expliquez, il s'agit là d'une ingérence, ou peut-être, juste comme vous l'insistez, question d'harmoniser.
Je crois qu'on doit nécessairement avoir à l'esprit que le pouvoir est unique. C'est une nation. Cette nation se doit de fonctionner avec un minimum de cohérence. Toutes les institutions, peu importe les compétences qui leur sont dévolues, doivent avoir nécessairement une vision et aller ensemble comme un homme qui marche seul. Si plusieurs hommes se collent et doivent marcher ensemble, quelqu'un pourra aller dans sa direction. Mais je crois que dans cette direction, on ne veut pas servir nécessairement les intérêts d'un individu, mais les intérêts d'un État. Prenons un exemple de l'article 204 de la Constitution, ou 203, je crois que si nous souvenez souvent, qui établit quand même qu'il y a des compétences concurrentes entre le pouvoir central et les provinces. Voilà. Là, c'est un exemple patent où on demande à deux entités séparées, le pouvoir central et les provinces, des pouvoirs. Traiter de la même matière, et vous voyez que c'est un domaine où la collaboration est nécessaire. Et on peut en citer autant. Donc, nous ne devons pas mettre des cloisons hermétiques entre le pouvoir central et les provinces. Enfin, vous savez combien les mécanismes qui sont les mécanismes, par exemple, de la péréquation, c'est simplement. Si l'État ne devrait pas nécessairement organiser une certaine solidarité entre provinces, vous pensez que. Ce serait automatiquement qu'une province pourrait passer à l'autre. Restons, nous allons voir dans les fonctionnements d'un budget suivant si la solidarité d'une province et d'une autre était un mécanisme automatique, on n'en serait pas là. Mais il va falloir quelque part les orienter, les amener à cette solidarité. On a besoin d'une collaboration entre le pouvoir central
et les provinces.
Cette collaboration, au regard de l'ordonnance 15-015, du 21 mars 2015, qui fixe les assemblées militaires, c'est l'assemblée de l'intérieur qui en a la charge, qui assure ce pouvoir et transmission entre le pouvoir central
et les provinces. Merci
beaucoup. Vous ne pouvez pas provoquer les gens pour rien.
Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup.
C'est ça, c'est notre dispositif.
Voilà. Albert Paca, nous allons.
On dit, non, je précise rapidement.
Oui, parce qu'il y a des auditeurs qui attendent, ils peuvent aussi.
Par exemple,
vous complétez.
Le gouvernement des provinces et les représentants de l'État. La loi est dit encore, la loi. Le 17 octobre 2008, dit qu'il représente l'État dans les missions publiques, la sécurité, l'ordre public, ainsi de suite. À ce titre-là, la loi elle-même, cette loi dit que le pouvoir central peut même se substituer au gouvernement des provinces. Pour, en effet,
Voilà, on a d'ailleurs des petits soucis avec votre ligne. Voilà, on a des petits soucis avec votre ligne, c'est ça disons, quelques perturbations, nous connaissons quelques perturbations au niveau de votre ligne téléphonique. On va revenir à vous, Albert Paca, question de rappeler à ceux-là qui viennent à peine de nous rejoindre, de composer les 081-890-7315 pour les interventions en direct.
Écho d'économie. Sur Radio Capi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie. 18h15, heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, un reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Parole aux auditeurs pour participer 081-890-63-15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
Félicien, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Félicien.
Bonjour J.R., bonjour à tous les auditeurs, bonjour à l'invité.
Vous avez la parole Félicien.
Oui, merci, mais moi ce qui m'étonne c'est que nous les Congolais nous n'avons pas l'habitude de nous rappeler ce qui s'est passé hier. Donc on passe, quand on a dit quelque chose aujourd'hui, demain on passe à autre chose. Aujourd'hui nous sommes en train de nous plaindre pourquoi les vice-premiers ministres se mêlent de ces problèmes des assemblées provinciales. Mais hier nous avions dit que on a mis la charrue avant le bœuf, on a fait les choses dans la précipitation, et ça va poser beaucoup de problèmes, de difficultés dans l'avenir et tout ça. Mais ce sont ces difficultés que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Ceux qui ont voté la loi de programmation ou la constitution, eux-mêmes, ils savaient bien que ça pouvait pas réussir et nous avions dénoncé ça. Et maintenant, quand on arrive au niveau des difficultés, nous avons oublié même ce que nous avions dit hier que ça va être difficile. Mais c'est ça les difficultés que nous vivons aujourd'hui, parce que ceux qui l'ont fait, soit ils ont planifié la cacophonie pour que nous puissions aller de cacophonie en cacophonie, soit ils savaient pas que ces difficultés devaient venir, parce que les choses ont été faites dans la précipitation. Et nous en sommes là maintenant. Moi, je pense que cette histoire de démembrement des assemblées provinciales, c'est dit n'importe quoi. Parce que même ceux-là qui se battent aujourd'hui, qui veulent se réunir, qui veulent tenir leur assemblée, ils n'ont aucune légitimité. Comment pensez-vous que les gens qui ont été élus pour d'autres provinces et qui ont terminé leur mandat, qui sont à leur deuxième mandat, qui veulent passer au troisième mandat, parce que la constitution dit que non, et on n'a pas encore eu d'autres personnes qui doivent les remplacer et ils doivent continuer. Non, moi je pense que nous sommes dans une cacophonie et que nous devons corriger même cette constitution-là. Si nous l'appelons constitution, c'est parce qu'on n'a pas un autre nom à donner. Et si une occasion s'est présentée comme la conférence nationale à l'époque, c'était une occasion pour revoir même la constitution. Mais aujourd'hui, il y a cette possibilité-là avec les dialogues qu'on demande. Mais je pense qu'on devait revoir les choses. Même cette constitution-là, elle n'est pas, il y a des lois qui sont là-bas qu'on ne peut même pas appeler lois. Ce sont des lois qui sont personnelles, qui ont été votées pour les besoins de la cause et par un parlement qui est à grande partie constitué des gens qui n'ont pas été élus. Et nous avions dénoncé ça aux élections de 2011. Donc nous avons besoin de nous rappeler ce qui s'est passé hier pour que nous puissions corriger l'avenir. Mais nous passons en vitesse et nous sommes en train d'aller. Mais arrêtons-nous un moment donné et donnons un nouveau départ à notre pays en refusant tout ce que nous faisons comme erreurs, en corrigeant les erreurs que nous faisons, et en prenant une décision pour dire non plus jamais ça.
Cette fois-ci,
nous devons aller dans la vraie démocratie, cette fois-ci, nous devons construire notre pays. C'est comme ça que les hommes sérieux peuvent réfléchir.
Félicien, d'aller d'erreur en erreur, de cacophonie en cacophonie, de confusion en confusion. Félicien, parce que là, il y a un autre invité qui parlait tout à l'heure d'une décision qui se justifie par le souci d'harmoniser les choses au niveau des assemblées provinciales, entre autres, doter ces assemblées des moyens. Donc, je crois que ça tient bien la route.
Oui, mais si on avait réfléchi avant, on ne mettrait pas la charrue avant le bœuf. On savait que ces assemblées n'avaient pas de moyens. Nous avions proposé à cette époque pourquoi on ne pouvait pas aller, comme l'a fait Mobutu sous la Deuxième République, en allant d'une province à l'autre, on fait le démembrement, on met des moyens, on résout les problèmes comme on l'a fait pour les Grands Kivus. Nous avions proposé tout cela, mais faire tout cela en bloc au même moment où on a beaucoup d'autres échéances, beaucoup d'autres produits qui demandent de l'argent, c'était planifier la cacophonie.
Voilà, il y a d'autres d'ailleurs qui disent que c'est encore plus compliqué parce que pour les élections, il n'y a pas d'argent et pour les assemblées, c'est trop rêvé également.
Également, c'est ça. Mais nous avions déjà tant dit et aujourd'hui, ceux qui interviennent se rappellent ce que nous avons dit il y a des mois, que c'était vraiment mal pensé et on ne pouvait pas agir ça. Et aujourd'hui, si le vice-président ministre se rend compte qu'il y a une difficulté, je crois qu'il a raison d'arrêter de descendre aux enfers. On peut parler d'erreur en erreur, de difficulté en difficulté. Quand on sait bien qu'on est devant le mur, on doit savoir s'arrêter. Et moi, je vois pas que c'est qu'on est en train encore de demander, non, pourquoi il se mêle de ceci, il se mêle de cela. Mais il n'y a rien qui va fonctionner de cette façon-là.
Merci beaucoup, Félicien, d'avoir appelé de Kinshasa. Arsène, vous êtes à Kikwit. Bonjour.
Bonjour Monsieur Gilles, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Vous avez la parole et disons vous avez suivi notre vos prédécesseurs ainsi que notre invité.
Ok, merci beaucoup pour la parole Gilles. En tout cas l'invité ne m'a pas convaincu. Il m'a pas convaincu. Qu'est-ce qui se passe exactement? Il y a un de grands professeurs, un éminent professeur qui est passé ici sur les ondes de la radio Capi au moment où la Cour constitutionnelle avait prononcé son arrêt. Le mot retenu que j'ai avec moi, il faut rire ou bien il faut pleurer. Malheureusement, le compatriote, quelques jours après, a été arrêté pour des raisons autres. Mais je veux dire ceci. Quand on veut faire quelque chose, on aménage tout. Nous, en technique, nous appelons ça gamme opératoire. Donc, vous programmez correctement avec les possibilités que vous avez. Les possibilités matérielles, intellectuelles et tout ce qu'il y a. Mais vous ne programmez rien. Vous n'avez pas un programme solide. Vous prenez les histoires en l'air. Finalement, tout devient compliqué. Et s'il faut suivre encore les informations, avec ce que j'ai suivi hier ou avant-hier sur les ondes de Radio France Internationale, avec le problème des élections qui iront vers le mois de juin, avec l'argent dont le ministre de l'économie dit autre chose, la CENI dit autre chose, prenez tout ça en globalité, vous verrez qu'on est en train de tâtonner. On est en train d'envoyer le pays vers une décadence certaine. Mais reprenons les choses en main. Essayons d'éviter d'abord les personnels, les identités personnifiées. Essayons d'éviter ça. Voyez d'abord la nation. Parce que si il y a quelque chose qui ne va pas dans la nation, congolaise, c'est comme dans une maison qui est en train de brûler. Tout le monde va brûler. Deux, trois personnes ont dit une équipe, comme on le dit, une équipe spécialisée, je ne sais de quoi, qui va toujours rester, qui va prendre le pouvoir. Mais regardons notre nation. Si nous regardons notre nation, et que nous avons l'amour de cette nation, et que nous avons l'amour de la population congolaise, je crois que cet amour-là va nous donner de la lumière qu'il nous faudra pour prendre de belles décisions. Qu'on se soit provisoirement ou pour harmoniser, je ne sais harmoniser quoi, mais il n'y a pas de prix. On ne sera pas harmonisé dans le désordre. Qu'est-ce qu'on va harmoniser? Les députés des provinces, ils sont hors mandat. D'ici peu, il faut les remplacer. Au même moment qu'on cherche à les remplacer, on crée un autre problème. Quand on crée un problème, il y a une autre succession. C'est comme si c'était un chapelet qui se répétait. Mais stoppons un tout petit peu. Le professeur Bochab, qui est membre du gouvernement, je crois que dans le gouvernement, il n'y a pas seulement des juristes, et je fais appel à tous nos juristes, parce qu'ils commencent à donner une certaine confusion dans les cerveaux du Congrès. Mettons-nous ensemble, réfléchissez. Moi, je ne suis pas juriste, de quoi je ne maîtrise pas. Donc, quand je veux faire quelque chose qu'il faut avoir l'avis d'un juriste, je veux voir le juriste. Quand il faut voir un technicien en économie, je veux voir un technicien en économie. Actuellement, ce n'est pas un problème de juriste, actuellement, c'est un problème politique. Le dialogue qu'on a promis, je crois que ceux qui ont eu le dialogue, ils avaient d'autres idées dans la tête. Le dialogue doit avoir en quelque sorte une source de lumière. Ce dialogue-là, bien qu'il y a des gens qui acceptent, il y a des autres qui refusent, mais nous devons toujours dialoguer. Tel que ici tout de suite même, que nous sommes en train de faire sur les ondes de la radio Capi, nous dialoguons. Donc il faut voir la situation clairement, sinon tout va très bien. Je suis de ceux-là toujours qui ont toujours cherché à prévenir. Prévenons tout ce qui se passe. On risque de me traiter opposant, on risque de me traiter un monsieur qui ne comprend pas. Non, moi je vois la nation congolaise. Je ne vois pas les partis politiques ou les gens qui sont au pouvoir ou ceux qui ne sont pas au pouvoir. Moi je vois la nation congolaise. Nous sommes en danger pour protéger quelques intérêts politiques de quelques intérêts. Non, ça je dis non, 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 je suis congolais, je suis zaïrois, je suis Toro-Zindika, je suis Nisonga. En tout cas, je ne veux pas de ça. Que le gouvernement central puisse prendre un peu son courage, voir un peu où il nous amène et trouver des solutions. C'est possible. Voilà mon intervention.
Merci beaucoup, Arsène. Maître Omar, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Maître Omar.
Bonjour, Julien Longuembo, et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Alors, si vous avez suivi, Arsène a beaucoup plus insisté sur cette question, qui n'est pas, en tout cas selon lui, juridique, mais qui est plutôt éminemment politique. Est-ce que vous partagez cet avis, vous, en tant que juriste?
Oui, je dirais que c'est très problématique à la fois politique et juridique. Mais étant juriste, je voudrais faire mienne la force juridique.
Je vais demander de ce sujet. Avant mon intervention, je voudrais élever ou lever, excusez-moi, certains écueils qui m'ont un peu perdu du point de vue intellectuel. Premièrement, l'invité de la décision sur l'article 203 de la Constitution en parlant des compétences concurrentes. Si vous prenez la Constitution, vous lisez l'article cité par l'invité, nulle part parmi les compétences concurrentes, on parle de la mise en œuvre de la décentralisation. Deuxièmement, on parle de l'arrêt de la Cour. C'est vrai, mais il ne faudra pas ici rappeler que la Cour n'est là que pour statuer sur la conformité des lois par rapport à la Constitution et juger pénalement les chefs de l'État ou le Premier ministre. Alors, on a dans notre pays la séparation des pouvoirs. Un organe exécutif, un pouvoir exécutif ne peut pas fonder sa décision, une décision juridictionnelle. Ce serait péché contre le principe de la séparation des pouvoirs. Et toi, l'invité parle de l'ordonnance du 21 mars 2015 qui a été promulguée, n'est-ce pas, du fond de la décision du ministre de l'Intérieur. Là, je dis encore c'est faux. Entre l'ordonnance citée par l'invité et la loi qui régit les provinces, quel est l'arc du prime en droit? C'est la loi du 1er juillet 2008 portant principe administratif de la province. Et que dit cette loi, l'article 2? Dans les matières où il faut que le gouvernement central puisse se substituer au niveau des provinces, on agit par la représentation du gouverneur. Et ce n'est pas dans toutes les matières, M. J.R., c'est pas dans les matières prévues par l'article 203. Deuxièmement, lorsqu'il faut, ou en cas de circonstances exceptionnelles qui bloquent le fonctionnement des juridictions au niveau plusieurs, l'article 64 de cette loi dit quoi? C'est les gouverneurs de province, représentant les pouvoirs centrales, qui peut superviser ou ordonner. On aurait donc l'habitude au gouverneur qui agit dans cette circonstance au nom du pouvoir central. Et lorsqu'il y a un conflit persistant entre les pouvoirs centrales et les institutions provinciales qui sont autonomes administrativement et politiquement, l'article 72 de cette même loi dit c'est la Cour constitutionnelle
qui va fixer.
Alors qu'est-ce que je veux dire par agir? Nous sommes un État décentralisé. Et la logique voudrait que dans cet état, que les provinces soient autonomes, et du point de vue politique, et du point de vue administratif. Et au nom de cette autonomie, aujourd'hui, la tutelle n'existe plus. La loi, je crois, c'est l'article 21 ou 26, dit que, en cas de circonstances exceptionnelles, le gouvernement peut prendre des mesures exceptionnelles, comme cela a été dit par la Cour constitutionnelle. Mais cela n'est pas le cas. Où est une circonstance exceptionnelle maintenant? Il n'y en a pas.
La seule condition pour que le gouvernement central pousse, suspendre, comme il refuse suspendre, sur soi, que lorsqu'il y a des circonstances exceptionnelles qui bloquent juridiquement et administrativement le fonctionnement de l'Assemblée provinciale. Alors, lorsqu'on analyse, lorsqu'on fait une étude comparative entre le texte et ce qui est vu sur le terrain, on se rend compte qu'il n'y a aucune circonstance exceptionnelle. Je voudrais finir pour dire à tout le gouvernement congolais qu'il y a un principe sacro-saint en droit, la compétence et l'attribution. On peut être président, ministre, vice-premier ministre, mais lorsque la loi ne vous a pas donné l'autorisation de légiférer, votre acte n'est que régulier. Et je voudrais en appeler à tout le monde de savoir respecter la loi, car le respect de la loi est la règle d'or dans une démocratie.
Merci beaucoup, Maître Omar, d'avoir appelé de Kinshasa. Emmanuel, vous êtes à Moïka. Bonjour, Emmanuel.
Bonjour.
Vous êtes à Moïka ou Kassai?
Oui, oui.
Kassai occidental démembré.
Tout à fait.
Voilà. Emmanuel, vous avez la parole.
Oui, quand tout à l'heure j'ai suivi les diocèses du ministère de l'Intérieur, son propos, moi j'appelle ça une nuance. Il veut tout simplement nuancer pour tergiverser. Mais sinon, le vrai problème, hier, quand vous parlez de la mainmise du pouvoir sur les institutions, je crois que vous êtes modeste, vous êtes même modéré, vous êtes tendre. Mais ce qu'il y a, si beaucoup de Congolais ne le voient pas encore, c'est vraiment une préfiguration de l'état d'urgence qui se prépare. C'est tout ce que je peux dire sans abuser de votre temps. Merci.
Merci beaucoup, Emmanuel. 081-890-6315 pour votre intervention en direct. Et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook ou bien sur notre courriel pa@radiocapi.net.
Okapi Soir vous propose du lundi au vendredi à partir de 16h, heure de Kinshasa, la chronique développement durable et environnement, les offres d'emploi. Retrouvez à partir de 17h sur la radio de la paix, les journaux en français, Soyi, Chiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale, économie, paroles d'enfants, rencontre avec les Congolais de l'étranger et les nations de sport, toutes les demi-heures. De 6h à 19h, bienvenue dans Okapi Soir.
Parole aux auditeurs.
Monsieur Albert Mpaka, vous êtes encore en ligne avec nous?
Oui, je suis toujours en lien.
Voilà, nous venons d'aller suivre cette deuxième série d'auditeurs. Il y a quand même quelques réactions et quelques inquiétudes qui se sont également dégagées. Mais je retiens la toute dernière, celle évoquée par notre auditeur au maître Omar, qui parle de la compétence qui est d'attribution. Aujourd'hui, c'est vrai, cet acte, selon lui, n'a pas été autorisé par la loi, qu'il s'agisse donc de la suspension ou même de la surséance. Cela n'est pas autorisé par la loi.
Voilà. Je pense que je l'ai dit tout à l'heure, nous devons rentrer dans un régime sans fin. Je respecte évidemment les positions des uns et des autres. Nous sommes en train de faire un travail d'installation de notre démocratie et je comprends que, pour moi, par leur propos, témoigne que ce travail s'est fait, s'est réalisé, puisque la démocratie. Ils en font usage chaque jour et ils n'ont pas besoin de se demander qui leur a apporté cette démocratie-là. Ça fait la mienne. Je veux seulement corriger très rapidement quand j'ai parlé tout à l'heure de l'article 203. Je ne voulais pas prétendre que c'était cela le siège de la matière ou de l'administration qui a été posée. Mais je voulais simplement démontrer par A plus B qu'il ne fallait pas nécessairement créer des cloisons entre le pouvoir central et les provinces. Je sais que c'est l'administration, mais je ne pensais pas que quelqu'un de sa compréhension allait y chercher les questions de maquillage. Je ne prétendais absolument pas. C'est par la seule pouvoir, je suis un peu quand même aussi choqué qu'un juriste, en tant que les prétend, dise qu'on ne peut pas se fonder sur une décision de juridiction pour pouvoir prendre une démarche. Mais enfin, je tiens seulement à souligner que toutes les décisions de juridiction ne peuvent être exécutées que par le pouvoir exécutif. Hélas. Les juridictions n'ont pas d'outils, n'ont pas d'instruments pour exécuter leurs décisions. Donc, séparation du pouvoir, oui, mais on ne parle pas suffisamment de la collaboration qu'il y a entre ces pouvoirs. Et ceux qui s'intéresseraient un peu de manière simplement scientifique sur la bonne littérature qui parlait de la collaboration nécessaire entre les institutions, je pense qu'ils peuvent plus tenir des propos aussi rustiques et de siècle que ceux que je vais entendre tout à l'heure. Mais pas très tienne. Le plus important, c'est que ce que nous devons retenir aujourd'hui, c'est que non, il y a vraiment des soupçons qui ont recréé un état de siège, ainsi de suite. Donc voilà, on est libre de tenir de tels propos, comme je disais il y a quelques temps. Chacun est responsable, n'est peut-être pas responsable de la gueule qu'il a, il est né comme ça, mais chacun est quand même responsable, et certainement responsable de la gueule qu'il fait. Faut essayer encore, mais je ne pense pas. On est en train de construire une démocratie, une décentralisation, les processus prend du temps, il vient de loin, et on est en train de les réaliser. On ne dit pas non plus qu'on a dit tout à l'heure, je l'ai entendu, je crois que c'était qu'il n'y en a pas de chèque, ça, que non, nous avons fustigé, qu'il n'y avait pas de moyens. Non, non. Les moyens sont là, mais les choses doivent se faire dans l'ordre. C'est faux que le gouvernement soit déjà sur place. Dans la banque centrale, pas seulement au niveau des ex-provinces, mais en général. Nous devons avoir un minimum de confiance. Je crois que le seul problème qui est soulevé aujourd'hui, c'est que c'est comme si nous étions dans un ménage qui bat de l'aile et que chaque fait et geste de votre conjoint est interprété comme étant dirigé contre vous, et alors on est dans une attitude où on réagit, où on a peur. Je crois qu'on ne doit pas installer la psychose dans notre pays. Et c'est là la difficulté. Et je voulais quand même interpeller la plupart de mes compatriotes. Non, nous ne laissons pas aller. Il y a une réelle stratégie de la peur qu'on veut installer ici, pour craindre quoi que ce soit. Je pense qu'il s'agit d'une démarche administrative. S'il y a quelques citoyens qui estiment qu'effectivement, moins d'élimination pourrait les amener à contester quelques actes, il y a un constitutionnel qui est là, qui ouvre la possibilité à nous tous de pouvoir aller contester. C'est l'occasion de la démocratie. Tous ces intérêts qui passent devant vous, qui déterminent un peu, selon eux, l'organisation des choses. Mais, enfin, qu'ils jugent de ça, qu'ils écrivent, qu'ils publient éventuellement. Alors, puisqu'on a parlé de solutions politiques, ils ont un espace politique qui leur permet de contester, d'aller, ils ont de ces espaces-là avec beaucoup d'expérience. Et en même temps, n'oublions pas qu'il y a des instances administratives, judiciaires, je dirais, qui nous permettent en tout cas de pouvoir protéger certains. Et là, peut-être que je crois à ces instances-là, sera plus élevé et il y a lieu de pouvoir apaiser les inquiétudes qui seraient nos compatriotes. Donnons-nous simplement rendez-vous dans les jours qui vont suivre. Nous nous rendons bien compte que, enfin, toute cette poussière pour rien, ça ne valait pas la peine. Et j'inviterai quand même certains de nos compatriotes d'avoir ce courage qu'ils aiment leur vie, de les tenir à vous entendre dire que, voilà, nous avons peut-être. Nous nous sommes trompés, mais Catherine Etienne, nous sommes prêts à proposer notre contribution désormais pour parachever ce processus de la réforme administrative spontanée. Je pense simplement à beaucoup de nos communautés locales qui appellent de tous leurs voeux, mais vraiment de tous leurs voeux, la décentralisation, l'autonomie, ne contrôlons pas. Hein. Autonomie ne veut pas dire, voilà, l'étalage. Non, autonomie veut dire surtout responsabilité. Donc, chaque province, chaque nouvelle province reçoit ses responsabilités et ses responsabilités dit nécessairement en traitement. Demain, moi, j'aimerais bien voir si un jour, non, c'est ce que je suis, que j'imagine, si une province, par exemple, proclame pour notre économie son indépendance. Je serais voilà ce que je parle de l'autonomie hermétique, non. Alors, ne versons pas dans la vie faire, dans la vie, chaque responsable doit pouvoir revenir avec sa constitution. Et quand il y a des rapages, il faut être vigilant, de redresser là où on se trouve devant les rapages. Voilà ce que moi je peux dire aujourd'hui. Donc nos nouvelles provinces ont reçu leur responsabilité, ils vont exercer leur responsabilité et l'État a les devoirs de prendre des initiatives qui permettent effectivement un épanouissement, mais vraiment ordonné, un épanouissement harmonisé entre la plupart des institutions. Et je crois que pour notre part, les inquiétudes s'avéreront à terme non fondées.
Voilà, on va repasser de l'autre côté du standard. Nous vous gardons encore en ligne pour quelques minutes. Prof Ndala, Ignace Ndala, Kolwezi et Pascal Akindou. Professeur Ignace Ndala, bonjour.
Bonjour, JR. Merci pour la parole. Merci pour cette opportunité. Je pense qu'à mon humble avis, un argumentaire développé par notre invité dénote beaucoup plus de stratégie politique que des éléments juridiques. Je félicite d'abord le ministère de l'Intérieur pour sa sincérité, mais comprenez que ils ont utilisé l'euphémisme en parlant de l'harmonisation. En fait, il fallait parler des difficultés, en toute sincérité. Disons que on parle de décentralisation, c'est un processus, et quand nous parlons de processus, il y a le facteur temps. Si le temps ne joue pas en notre faveur, il devient notre ennemi. Disons que l'histoire nous a rattrapés. Il y a des réels problèmes dans cette prise de mesure, celle relative à la surveillance. Disons qu'il y a eu des problèmes en amont. C'est-à-dire que, étant rendu compte que les assemblées provinciales tendaient à l'installation du bureau définitif, et que l'arrivée à ce stade-là, cela poserait encore des sérieux problèmes d'argent, ils ont dû recourir à cette stratégie-là. La problématique aujourd'hui, c'est celle de savoir si, réellement, on se regarde dans les yeux et dire honnêtement à la population si les provinces nouvelles sont réelles et effectives. Moi, j'ai dit non, elles n'existent pas. On a demandé les anciennes provinces en passant créer de nouvelles provinces, alors qu'il n'y a rien. On est maintenant dans une situation d'impasse. Ces fameuses provinces, appelées comme cela, sont du nom, sont sur papier. Je me demande si, en principe, des provinces, des assemblées provinciales et du gouvernement, ou du ministère de l'Intérieur, devaient poser le problème d'harmonisation de ces activités ou le problème d'argent, le problème financier. En principe, on ne doit pas traiter les députés provinciaux dans les nouvelles assemblées comme si c'était des néophytes. Ce sont des anciens, des expérimentés, ceux qui ont même déporté de leur mandat. Hein. Ils ont mis longtemps. Ils savent ce qu'ils devaient faire. Ils n'ont pas posé de problème d'urgence d'harmonisation dans leur action, mais curieusement, c'est le ministère de l'Intérieur qui vient poser ce problème-là. Moi, je pense que nous sommes en train de tendre tout droit vers ce que disait l'un de nos prédécesseurs en parlant d'une situation chaotique. On est en train de tuer même le principe de la décentralisation. On est en train petit à petit de tendre vers la centralisation ou plus ou moins la déconcentration. Alors, je pense que là où nous allons finir par l'annulation ou la suspension carrément des assemblées, de la vie politique des assemblées provinciales pour laisser place à ceux qui seront nommés. À ce moment-là, ils seront libres de toute action, n'ayant pas ceux qui pourront les contrôler au niveau de la base. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Voilà, merci beaucoup, professeur Ignace Ndala, d'avoir appelé de Colézy. Disons, vous avez été renseigné par leur message, par Jeannot Lopempe, et Maurice Mouyananou, Lukendamo, et puis Rod Prozazoul, Josué Rian, c'est Begazo, tous nous ont envoyé leur message. Nous allons découvrir encore d'autres messages tout au long de cette émission. Nous vous rappelons que nous avons en ligne Albert Paca, qui est au conseiller juridique au ministère de l'Intérieur, qui est notre invité pour éclairer la lanterne des uns et des autres autour de cette thématique sur la décision du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Évariste Bouchard, qui a suspendu la semaine, disons, il y a deux semaines, les sessions ordinaires. 081-890-3315 pour votre intervention en direct. Albert Paca, vous êtes avec nous?
Je suis toujours avec vous.
Voilà. Comment réagissez-vous par rapport à ce que venait de dire tout à l'heure le professeur Ignace Ndala?
Je respecte le professeur, ce que ça soit-il, mais s'il devait examiner en temps son propos, s'il s'agit de spéculation, plus spéculation. Et quand il s'agit de spéculation, évidemment, c'est un peu plus difficile de pouvoir débattre sérieusement. Mais je voudrais quand même profiter de la parole qui m'est donnée pour préciser une autre chose. Au stade où on en est, je crois que le fonctionnement des nouvelles provinces ne doit pas nécessairement être surpâtié. Je crois que nous sommes tous qui sommes des Saint-Thomas qui aimeront bien qu'on mette le doigt dans notre ou en tout cas dans les plaies du Christ pour croire à sa résurrection. Et qu'à cela ne tienne, je voulais dire qu'à certaines personnes qui croient que nous n'en sommes pas là, la réalité est que ces provinces, dans les institutions qui sont déjà en place, fonctionnent réellement. Je vais prendre simplement un exemple, très rapidement, sur l'ordre opérationnel. Comme vous savez, ce sont les services qui sont autour des frontières, et je peux vous dire qu'au niveau de la DGM, au niveau de certains services, et au niveau de la police nationale, tous ces services des nouvelles provinces qui sont pleinement installés. Et leur fonctionnement est effectif et tout ça c'est sous l'étiquette des nouvelles provinces. Je crois pour ma part, nous devons aussi savoir si cette décentralisation ou ce découpage a
n'a pas été un caprice du pouvoir central, mais c'était une demande qui était effective. Je rappelle que cette demande avait déjà figuré au niveau de la conférence nationale. Cette demande a été au cœur du débat au niveau de celle-ci. Cette demande est résolue au niveau de l'accord Addis Abeba. Et donc, il fallait exécuter cette préoccupation, cette situation de la population. Donc, il y a des gens qui sont avides de leur autonomie, de leur responsabilité, et ils sont conscients qu'aujourd'hui, les instruments nécessaires sont en train de se mettre en place, et toute œuvre demande quand même un minimum de progressivité. Alors, nous devons nous armer un peu de patience pour ceux qui veulent avoir tous les documents, avoir un gouverneur des provinces. Pourquoi est-ce que ces provinces sont faites réellement? Nous allons y parvenir, mais cela doit se faire dans l'ordre. Et il y a des hommes et des femmes dans ces pays qui ont accepté de se mouiller, de travailler assidûment pour ça. Je crois que le ministre de l'Intérieur a trouvé ses dossiers dans le tiroir, il s'en est approprié, il a, au nom du gouvernement, jeté la démarche. Je crois que nous y parvenons. Alors ce n'est pas si près du but que nous devons nous livrer à des spéculations comme cette dernière qui est entendue ici. Il faut être quand même assez, assez conséquent par rapport à ces positions. Nous devrons nécessairement faire des contributions terrestres. Je pense que ce qui a été dit pour aujourd'hui, nous allons, dans les jours à venir, améliorer la communication pour peut-être ce processus éducatif qui aimerait bien mettre le doigt, comme je l'ai dit tout à l'heure. Elle a apporté pièce à l'appui, mais vous savez que moi je suis partisan en droit de la transparence de la discussion. Les citoyens ont le droit de savoir ce qu'on fait, de ses contributions, ont le droit de s'informer. Le ministère est ouvert. On va peut-être organiser des journées portes ouvertes pour qu'ils viennent poser des questions, qu'on leur donne des papiers, des documents pour élaguer cette psychose qu'on veut installer. Et l'ennemi va en profiter pour vous. Parachever cette stratégie de peur qui risque de nous habiter inutilement et qui va déterrer nos ennemis. J'invite quand même mes compatriotes à rebondir, à s'armer de vigilance, pour plutôt travailler à l'avènement d'une nation développée comme nous tous nous y aspirons.
Voilà, Albert Saka, nous vous gardons pour conclure avec nous cette émission. On prend d'abord l'honorable Paulet Odiane, qui est député provincial à Issiro. Voilà, on va se soucier avec la ligne de l'honorable Paulet. Honorable Paulet ?
Oui.
Voilà, vous êtes en ligne ?
Oui, je suis en ligne.
Vous avez la parole.
Voilà. Merci beaucoup, mon frère. Je crois que j'ai suivi avec intérêt l'invité. Comme l'a souligné le professeur, je crois que l'invité n'arrive pas à nous convaincre. Il est en train de parler, mais je ne trouve rien de consistant à ce qui concerne le blocage des activités des assemblées provinciales. J'étais d'abord à dire qu'à ce qui concerne la session ordinaire, sur ce plan, je suis d'accord avec les ministères. L'Assemblée provinciale ou les assemblées provinciales au moment où nous parlons sont encore en session extraordinaire. Par conséquent, on ne peut pas convoquer la session ordinaire parce que les matières pour lesquelles les assemblées ont été convoquées à session extraordinaire ne sont pas encore épuisées. Donc nous sommes pendant la session extraordinaire non payés d'ailleurs, qui ne sont pas payés. Mais en ce qui concerne la mainmise du ministère de l'Intérieur sur les assemblées provinciales, nous ne comprenons pas si cela vient de quelle loi. Parce que nous devons nous référer à la loi. On ne doit pas se baser sur des spéculations, dire que non, voilà, il faut recadrer, il faut... Quand il parle de collaboration même, personne n'est contre la collaboration entre les provinces et le gouvernement central. Mais que signifie collaborer? Est-ce qu'en prenant la décision, il y a une collaboration entre les assemblées provinciales et le ministère de l'Intérieur? Moi, je ne crois pas. Il n'y a pas eu de collaboration. Le problème est venu dès le départ. Vous avez suivi vous-même que le président, les membres du bureau provisoire ont été convoqués à Kinshasa pour ne rien faire. Pendant autant de jours, ils étaient bloqués à Kinshasa. Et ça a bloqué complètement les activités des assemblées provinciales. Et au moment où nous parlons, il n'y a pas moyen de siéger à cause de cette fameuse décision qui bloque tout. Et est-ce que nous allons continuer à nous baser sur des spéculations ou il faut suivre les textes qui régissent le pays? Au moment où nous parlons, moi je ne vois pas comment on peut dire que non, il y a un problème au niveau des assemblées communautaires, il faut recadrer, il faut faire ceci et cela. Moi je ne vois absolument rien. Et en même temps, on demande, j'ai suivi l'intervenant quelque part, il a dit même dans une émission que non, sur le plan financier, on trouve, il faut uniformiser même le démoliment des députés provinciaux. Mais le problème ne réside pas à ce niveau, il n'appartient pas au ministère d'uniformiser même le traitement des députés provinciaux. Il faut prendre une loi qui va organiser ces domaines, que ce soit pour les nationaux, les sénateurs, les ministres nationaux, les ministres provinciaux. Il faut aller dans ce sens-là, sur le plan juridique, et non pas rester au bureau, prendre une décision qui va régir les assemblées provinciales, qui sont d'ailleurs... Qui ne sont pas sous tutelle. Les provinces ne sont pas sous tutelle. Les provinces ne sont pas des entités décentralisées. Ce sont des entités régionalisées. Donc, par conséquent, le ministère n'a pas la même mise sur les provinces. Donc, sur le plan politique, il parle, mais lui, en tant que juriste, si on les met à l'écart du ministère, il ne va pas agir de cette manière-là. Donc, il agit en tant que politicien et non en tant que juriste. Parce qu'un juriste ne peut pas se permettre, en dehors même des fonctions politiques, d'intervenir dans ce sens-là. Donc, si nous ne voulons pas de provinces, il faut clarifier la situation, dire que non, nous ne voulons plus de provinces. Nous voulons tout simplement nommer les commissaires spéciaux, afin que ces commissaires puissent diriger les provinces. Et la Cour qui dit qu'il faut d'abord l'élection des gouverneurs avant toutes les autres élections. Et donc ça va se faire quand ? Et pendant quelle période ?
Merci beaucoup.
Je ne comprends absolument rien.
Merci beaucoup, honorable Paulin Odiane, député provincial de Siro, dans la province orientale. Honorable Bolili, vous êtes député provincial à l'Équateur. Bonjour, honorable.
Bonjour, monsieur Gilles.
Vous avez la parole, honorable, et on va terminer avec vous.
Bon, en fait, je crois que la décentralisation n'est pas un fait du hasard. Et la Constitution, à son article 2, parle bien de la décentralisation, et cela devait se faire 36 mois après l'installation du Sénat, c'est-à-dire en 2009. En 2009, il y a eu des équilibrations politiques, et cela n'a pas eu lieu. Donc, maintenant, nous sommes dans ce processus-là. C'est venu au bon moment. C'est venu au bon moment, mais nous constatons que les politiciens véreux qui sont à Kinshasa, qui ne connaissent pas la réalité sociologique de nos populations qui vivent autour de nous, veulent embrouiller la carte de la décentralisation. Tenez bien, aujourd'hui, les assemblées provinciales ont procédé à l'ouverture de cette session extraordinaire. Dès le premier jour, il y a eu des turpitudes, il y a eu des violences qui ont été perpétrées, surtout dans les 5 provinces de membres de l'Équateur, pour raison seulement parce que la Cour suprême de justice, faisant office de la Cour constitutionnelle, avait rendu un arrêt pour que les anciens députés provinciaux qui sont allés dans les fonctions incompatibles puissent reprendre leur siège dans les assemblées provinciales, et cela sur toute l'étendue de la République. Et dans toutes les provinces, cet arrêt a été exécuté conformément à l'article 167. Et voilà à l'Équateur, l'Équateur, Grand Équateur, cet arrêt a souffert jusqu'à ce jour. Et les jours de la rentrée de la session extraordinaire, la loi de programmation des provinces a prévu 5 points, notamment.
Oui, 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 honorable.
Oui,
oui, honorable Bolili, on a que 30 secondes. On a que 30 secondes.
Lors de validation de pouvoir.
On ne saura pas, continuer tant qu'on est pratiquement à la fin de cette émission. Merci beaucoup, honorable Bolili. Et par respect des auditeurs, parce que après, parole aux auditeurs, il y a un autre programme. Et les programmes se poursuivent sur Okapi. Voilà. Merci à Alain Goy qui a assuré la mise en onde de ce programme réalisé par Pierrot et la Mégie et Julie César Bongonda. Une émission qui vous a été coordonnée et présentée par J.R. Mingembo sous la supervision de Leonard Moulamba. À très bientôt pour un autre numéro.